Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle carte blanche et un nouveau nom. En 2022, nous étions Plus on est de fous. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les anciennes émissions sur le site de Canal B. Désormais, notre carte blanche se nomme Fréquence follement curieuse. Nous sommes toujours un collectif d'usagers de la psychiatrie qui réfléchissent sur les troubles psy, leur prise en charge et le regard porté sur eux. Nous essayons d'esquisser des pistes pour que nos liens avec les soignants, les institutions s'améliorent et que le regard porté sur le mal-être psychique soit moins sévère et stigmatisant. Ce qu'on présente ici, pour résumer, c'est la lutte pour que nos paroles puissent enfin être entendues. Aujourd'hui, le titre de l'émission est « La famille, quel rôle ?». Nous commencerons par une interview avec Anne, membre de l'Union nationale des familles et amis des personnes malades, puis par le témoignage puissant de la mère d'un jeune patient, Maëlig Hiver, qui s'est suicidée juste après une hospitalisation. Ensuite, Anne-Pauline nous parlera psychogénéalogie, puis je pousserai un coup de gueule sur les violences intrafamiliales. Et enfin, Yann conclura avec sa vision du rapport entre famille et troubles psy. Les copains, vous pouvez vous présenter ?
Bonjour à tous, Anne-Pauline, je suis artiste, auteur.
Donc Yann Planche, donc je suis blogueur journaliste et j'écris des articles sur la santé mentale à Rennes et mes articles sont publiés sur le site infopsyrennes.org. Et toi, Béryl ?
Du coup, moi, c'est Béryl, usagère en psychiatrie. Attendez, on a oublié notre invité. Bonjour Anne, tu peux te présenter ?
Bonjour. Donc, je suis Anne, je suis la mère d'un jeune homme à l'époque, maintenant un homme, qui a 44 ans et qui est atteint de troubles schizophréniques. Voilà pour ma présentation, je parlerai plus après de l'UNAFAM qui m'a aidé à gérer la situation.
Donc du coup, justement, mais qu'est-ce que l'UNAFAM ?
Alors l'UNAFAM, c'est une association qui a été créée en 1963 et dont le but général est d'aider les proches de malades psychiques. Nous nous adressons aux familles, nous nous adressons aux amis et à toutes les personnes de bonne volonté qui viennent nous aider pour ces troubles. Enfin, ces troubles, nous ne sommes pas médecins, mais pour aider les familles à accompagner leurs proches dans la maladie.
D'accord. Et qui peut adhérer à l'UNAFAM ? Est-ce qu'on peut trouver l'UNAFAM dans toutes les grandes villes de France ?
Alors, l'UNAFAM, c'est en fait une seule association nationale. Elle a des ramifications dans tous les départements français. Je ne sais pas si je peux répondre exactement à la question de sa présence dans toutes les villes, mais je dirais qu'à 90%, voire plus, il y a des délégations UNAFAM dans les départements. Tout le monde peut adhérer, c'est ce que j'ai dit, c'est d'abord fait pour les proches, puis pour les amis, et puis bien sûr, de plus en plus, ça s'ouvre à des personnes de bonne volonté qui ont envie de donner du temps pour résoudre ces questions dont on a parlé.
Est-ce qu'il y a des professionnels au sein de l'UNAFAM ?
Alors, pour ce qui est, je ne peux pas répondre pour l'ensemble de la France. Il y a des professionnels au siège national. Dans les délégations, c'est très variable. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en Bretagne, sur les 4 départements bretons, il n'y a pas de salariés professionnels. Il y a seulement un fonctionnement avec des bénévoles. Il y a une salariée pour l'animation régionale qui s'occupe donc de l'ensemble de la Bretagne, mais nous n'avons pas d'autres professionnels.
Quelles sont vos actions concrètement ?
Alors, nos actions, j'ai envie de les séparer un petit peu en deux parties. Il y a les actions directement pour les proches, puisque nous avons été faits pour ça. Nous avons un rôle d'accueil. Déjà, personnellement, je fais de l'accueil tous les mardis ou un mardi sur deux pour accueillir les familles de proches de malades. Nous avons un rôle de formation, de proposer des formations pour apprendre à décoder l'ensemble des énigmes, parce que c'est vrai que parfois ce sont des énigmes, ces maladies psychiques. Donc nous avons des formations pour ça et nous avons des groupes de parole. Des groupes de parole dont on sait que le fait de parler avec d'autres personnes concernées par le même sujet permet de se soulager un petit peu. Et À côté, nous faisons des informations ponctuelles aussi sur différents thèmes qui intéressent les familles, par exemple la MDPH, la CAF, voilà, un petit peu. Au niveau des institutions maintenant, nous représentons le droit des usagers. Alors, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui seraient en capacité de se représenter par eux-mêmes, mais il n'empêche que certains d'entre eux ne le font pas. Donc nous sommes présents à l'hôpital, à la commission des usagers, à la MTPH, maison pour les personnes handicapées, dans un collectif de handicap, à l'ARS. J'en oublie certainement, mais vous aurez compris que notre rôle, c'est la défense des droits des malades.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les formations ? Tu en as parlé ?
Oui. Alors, les formations, donc, il y a des formations plus ou moins longues. Nous organisons 2 ou 3 fois par an des journées dites sur la maladie psychique. Depuis l'année dernière, nous les avons organisées en fonction du trouble. C'est-à-dire que nous avons un samedi où on va parler du trouble schizophrénique. Un autre, on va parler des troubles de la bipolarité. Un autre, de la dépression. Le champ est vaste et autant l'UNAFAM au départ était un peu axée plutôt sur les troubles schizophréniques, son champ d'action s'est élargi et c'est pour ça que nous proposons des formations de cet ordre. Par ailleurs, en lien avec l'hôpital, nous proposons aussi, nous sommes plutôt partenaires de l'hôpital pour proposer des formations telles que Profamille et plus récemment, ce qui n'est pas une formation mais qui un programme qui s'appelle Bref, qui permet aux personnes accompagnant des proches hospitalisés pour la première fois d'être rencontrées par des équipes médicales et par des bénévoles de l'UNAFAM qui vont leur parler de toutes les ressources existantes sur le territoire pour solutionner les problèmes. On n'arrive pas toujours à tout solutionner, mais au moins on les présente.
Et d'ailleurs, quels sont vos moyens de communication pour vous faire connaître ?
Oh, nous sommes très modestes, nous n'avons pas de moyens de communication genre grande publicité ou autre. Nous avons un site internet qui s'appelle unafarm.org avec une sous-division pour l'Ille-et-Vilaine. Nous avons le téléphone et quelquefois des articles dans la presse. Mais c'est vrai qu'au niveau communication, sans doute qu'il faudrait qu'on renforce un petit peu les choses pour être mieux connus. Parce que je vais juste vous donner une échelle de grandeur. Au niveau national, on estime, j'ai des estimations, à 3 millions le nombre de personnes qui souffrent d'un trouble mental. L'UNAFAM regroupe 15 000 familles. Donc vous voyez qu'il y a de la marge et que la communication pourrait s'élargir.
À ton avis, quel est le rôle de la famille par rapport à la personne qui a des troubles psychiques ?
Alors, c'est une question très importante ce que tu demandes là, Yann, parce que la famille a souvent un rôle d'accompagnement, quelquefois même un rôle de tuteur, quelquefois un rôle de soignant. Et je pense personnellement que nous aurions besoin d'éclaircir l'ensemble de ces rôles. Il me semble que la famille doit rester dans un registre affectif et de protection, mais que tout ce qui est du soin et de l'accompagnement dans la vie citoyenne doit être et devrait pouvoir être délégué à des tiers. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de tiers et que très souvent, la famille se transforme en soignant, notamment, avec tous les conflits que ça peut générer. C'est très compliqué. Donc, un des objectifs de l'UNAFAM, c'est de développer les possibilités d'accompagnement à l'extérieur pour les personnes souffrant de troubles.
En quoi consiste la père aidance de l'entourage du patient ?
Alors, la père aidance, c'est que, je disais tout à l'heure, quand on se retrouve, par exemple, dans un groupe de parole, on va retrouver des personnes qui vivent des situations, pas forcément les mêmes, mais des situations qui ont trait à la maladie psychique. Et le fait de pouvoir exprimer sa situation, quelque part, c'est libérateur. Et d'autre part, ça permet aussi de mettre un peu à distance son problème. Donc, je pense que les pères, PAIR, ont un rôle essentiel pour aider à à supporter, il faut bien employer le terme, parce que quelquefois c'est le cas, le trouble de nos proches. C'est vraiment important, sachant aussi que, on va peut-être y revenir après dans vos témoignages, mais sachant aussi que la maladie psychique est très stigmatisée et qu'on ne peut pas en parler. Souvent, les familles nous disent, ben, vous savez, nous on ne voit plus personne, on ne voit plus nos amis, on ne voit plus personne. Donc, quand on vient à l'UNAFAM, qu'on rencontre des gens comme soi, au moins on peut parler. Je ne dis pas que c'est bien de ne plus avoir d'amis, bien au contraire, mais au moins on sait qu'on s'adresse à des personnes qui vont nous comprendre.
Que penses-tu de l'état de la psychiatrie en France? Quelles sont les analyses de l'UNAFAM?
Alors, j'ai envie de te renvoyer à l'état de l'hôpital et de la santé en général, avec en pire, j'ai envie de dire, l'état de la psychiatrie. C'est-à-dire que la psychiatrie, le mouvement est amorcé depuis au moins 30 ans, de défaire les lits et d'avoir un accompagnement vers l'extérieur, ce qui est bien, parce que ce n'est pas bien d'enfermer les gens à l'hôpital, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais le problème, c'est que on n'a pas, les services publics n'ont pas assez réfléchi à ce que devraient être les services d'accompagnement et d'aide à la sortie. Donc la moitié du temps, la personne se retrouve sans ressources, sans aide, et hop, ben, livrée à la famille. Ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Si famille il y a, quand il n'y a pas de famille, vous savez, on en rencontre aussi dans la rue des personnes qui sont atteintes de troubles. Donc la psychiatrie, je ne suis pas très, très optimiste. On voit bien que le métier de psychiatre n'attire plus non plus les jeunes médecins. Donc je ne sais pas vraiment quoi vous répondre, si ce n'est qu'un état des lieux assez alarmant pour l'instant.
Mais quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des axes d'amélioration sur lesquels il faut travailler en priorité pour améliorer les conditions d'accueil des patients, mais aussi des familles dans les hôpitaux psychiatriques?
Oui, alors ça, j'ai envie de dire, c'est un chantier qui est ouvert à l'UNAFAM depuis quelques années. Par exemple, à titre personnel, je suis sollicitée assez souvent pour participer à des formations d'infirmiers qui viennent d'arriver dans les services psychiatriques, pour leur dire un petit peu, nous, familles, comment on ressent les choses, comment on voit les choses. Donc c'est déjà une première ouverture. Je peux vous assurer qu'il y a 20 ans, quand mon fils a été hospitalisé, cette ouverture-là, elle n'existait pas du tout. Je vous ai parlé du programme Bref. Je crois que c'est aussi une ouverture vers les familles et vers le système. Après, il y a certainement encore beaucoup de progrès à faire. Et j'ai envie de dire que les progrès, ils sont variables selon les psychiatres et selon presque les pavillons. Vous prenez ici à Rennes, selon le pavillon où vous êtes, vous n'avez pas du tout la même entente, enfin la même façon de fonctionner. Donc il y a vraiment un problème presque de management aussi des équipes de psychiatrie.
Est-ce que la communication entre le corps médical et les familles des patients est fluide?
Alors, je vais répondre un petit peu comme j'ai répondu pour l'autre question. Ça dépend. Ce n'est pas du tout que je ne veux pas répondre. Mais il y a des équipes psychiatriques, quand le chef de service est ouvert, où ça se passe relativement bien. Et bon, vous avez sûrement entendu parler de l'approche systémique. Ce qui est intéressant quand on a une personne malade, c'est que l'ensemble des intervenants soient au courant de ce qui se passe et puissent intervenir au lieu de compétence où eux ils sont. Mais il y a aussi, traditionnellement, on va dire, la psychiatrie était assez fermée aux familles. D'abord dans les années 68-70, on a beaucoup dit que les troubles psychiques étaient liés à la famille, voire aux mères. Et voilà, donc ça c'est des choses quand même qui ont avancé. Mais dans certains pavillons, il y a encore des réticences à communiquer avec la famille. Il faut aussi dire, pour être tout à fait juste, que certains malades ne souhaitent pas que leur famille soit informée ou qu'elle ait un lien avec le psychiatre. Mais bon, je ne pense pas que ce soit la majorité. Je crois qu'on a vraiment un travail de rapprochement à faire si on veut être efficace.
Malheureusement, il y a eu plusieurs cas de suicide suite à des erreurs de diagnostic,
oui,
des sorties trop tôt, des conditions d'internement déplorables. Les familles ont-elles un moyen de se retourner juridiquement contre ces manquements? Au niveau des associations, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, du défenseur du droit, d'un juge?
Oui, les familles ont toujours la possibilité. Te dire que ça a abouti, Yann, j'en suis pas du tout certaine. C'est qu'il y a plusieurs échelons. Premier échelon, quand ça va pas jusqu'au suicide, mais quand il y a un dysfonctionnement, on peut interpeller la maison des usagers, la MDU, la commission des usagers. Ça, c'est un premier niveau. On peut également adresser des courriers à l'Agence régionale de santé, puisque l'Agence régionale de santé, l'ARS, est la, contrôle les hôpitaux, en quelque sorte. Donc, on peut aussi s'adresser à eux. Quand le cas est plus grave, eh bien, c'est une plainte, comme si il y avait eu une plainte d'un crime. C'est-à-dire qu'il faut aller à la gendarmerie, faire une lettre au procureur et... Je le dis avec beaucoup de tristesse et attendre que ça passe parce que c'est assez terrible. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un reportage là, c'était sur des personnes qui ont été qui sont mortes hein, la suite d'erreurs médicales, mais pas en psychiatrie. Bon, les familles attendent toujours. C'est vraiment des démarches très 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 longues, très 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 difficiles à faire. Mais ça ne veut pas pour ça qu'il faut baisser les bras, bien loin de là.
Alors, pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu veux communiquer aux auditeurs ?
Alors, je voudrais dire que peut-être deux choses. La première, c'est que pour les familles et les proches, ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls, c'est quelque chose de vraiment très, très important. On en voit, et encore si j'en vois moins, c'est que c'est des gens qui ont déjà fait la démarche de venir nous voir. Mais je pense qu'il y a des gens qui vivent en enfer, autant pour les proches que que la personne souffrante. Donc ne restez pas seuls, ça me paraît être quelque chose de très important. Et la deuxième chose, c'est si on pouvait éviter la stigmatisation des malades mentaux, ce serait une deuxième victoire très importante.
Alors, comment joindre l'UNAFAM ? Et avoir accès à ces activités, adresse, oui. Horaire, formation. Tu peux nous donner les
premiers. Alors, d'une part, il y a un site. Il y a un site national, je vous ai dit, avec une division Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, je crois que le numéro le plus important que je vais vous donner pour l'Ille-et-Vilaine, c'est le numéro de standard de notre local. C'est au 02 99 53 88 93. Là, vous aurez affaire à un répondeur, mais vous serez rappelé assez rapidement. J'en suis témoin, puisque moi, je fais partie des personnes qui rappellent. Donc, on rappelle assez rapidement. Et là, au téléphone, on peut voir un peu ce qu'on peut proposer selon les cas. Autrement, pour rejoindre le national, où il y a une écoute psychologue au niveau national par téléphone, je peux aussi laisser le numéro. C'est le 01 42... 63-03 deux fois. Là, il faut un petit peu de patience parce qu'ils sont très pris, mais il y a une très bonne écoute aussi de psychologues au niveau national. Alors nous organisons donc des accueils tous les mardis après-midi. Je vous parle de Rennes, là. Hein. Des accueils sur rendez-vous. Donc c'est à partir du numéro que je vous ai donné. On rappelle les gens et on leur donne un rendez-vous. Et c'est essentiellement comme ça que les gens viennent à nous.
Bah, merci beaucoup Anne, c'était un plaisir de discuter avec toi et je crois qu'on se rejoint sur beaucoup de points, notamment sur la stigmatisation, sur le fait de surtout pas rester seule et aussi malheureusement sur l'état de la psychiatrie actuellement et surtout le fait qu'il y ait peu/pas de préparation pour les patients en sortie d'hospitalisation. On a d'ailleurs un témoignage concret à lire à ce sujet. Il s'agit d'un écrit de Paul, la mère de Maëlie Guivert, qui s'est suicidée en 2018 à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes. Sa sœur Anaïs avait déjà livré un témoignage sur ses conditions d'hospitalisation dans une émission qu'on peut retrouver sur le site de Canal B. Plus on est de fous, carte blanche santé mentale, la crise 1, à la date du 12 décembre 2022. Anne-Pauline, je te laisse lire le témoignage de Paul.
Lors de la dernière hospitalisation de Maëlie, qui a duré 15 jours, il est passé dans trois services différents. Un premier pavillon, qui était sans doute le seul à avoir un lit disponible, où il n'y a eu aucun travail de fait à part la prise de médicaments. Un deuxième pavillon, fermé depuis un certain temps, mais réouvert dans une totale improvisation. là aussi sans doute pour un problème de place dans tous les autres services. Ce pavillon est lugubre, à la limite de l'insalubrité. Pas de mobilier à l'exception dans le hall d'entrée, des fauteuils défoncés, déchirés et sales, des chambres aux murs dégradés avec des toiles d'araignée, des soignants occupés à transporter des tables et des chaises pour donner un semblant de vie à ce lieu sinistre et de ce fait non disponible pour les patients et encore moins pour leurs familles. Enfin, un troisième pavillon, celui du secteur psychiatrique dont Maëlic dépend. Dans un tel contexte, un véritable accueil est-il possible ? Un véritable travail qui permette aux malades de trouver de l'apaisement est-il possible ? À propos de l'entretien que nous avons eu, le père de Maëlic et moi-même, à notre demande après le décès de Maëlic, pour tenter de comprendre et de faire entendre notre parole de parents. Cet entretien a suscité chez moi indignation et colère. Tout d'abord, on nous a fait attendre très longtemps parce que le psychiatre, chef de service, qui nous recevait prolongeait à n'en plus finir sous nos yeux et nos oreilles une conversation avec des collègues sur leurs retrouvailles. Cela peut paraître anecdotique. Personnellement, je l'ai vécu comme un manque de considération. Dans le bureau du chef de service, nous attendait le deuxième psychiatre, un peu en retrait et gêné, celui qui était en charge du service pendant l'hospitalisation de Maëlic. Le premier geste du chef de service au cours de cet entretien a été d'ouvrir son ordinateur en s'adressant à nous en ces termes. Il faut d'abord que je consulte mon dossier pour me remettre les choses en mémoire. Et au bout de quelques minutes, à 36 ans, je peux vous dire déjà que les statistiques nous apprennent que c'est précisément autour de cet âge que les schizophrènes se suicident le plus souvent. Et il ajoute, cynique, parce que vous savez que votre fils était schizophrène. Nous venons de parler de Maëlic et de son geste désespéré le lendemain de sa sortie d'hôpital et on nous parle de dossiers et de statistiques. Comment doit-on le prendre ? Être rassuré ou soulagé d'apprendre que son geste pouvait être prévisible compte tenu de son âge et donc qu'en aucun cas l'hôpital ne peut être tenu pour responsable ? C'est d'ailleurs ce sur quoi insiste le psychiatre, chef de service. Nous avons dans le service des professionnels compétents et expérimentés qui font bien leur travail. Nous, parents, nous ne devons rien dire et si nous le faisons, notre parole n'est pas entendue. Tout au long de l'entretien, le chef de service couvre son remplaçant, l'équipe soignante aussi. J'évoque alors l'impression ressentie à chacune de mes visites lors des différentes hospitalisations de Maëlic, atmosphère lourde, pesante, empreinte de beaucoup de tristesse, de solitude et d'ennui pour les patients, les malades déambulant dans les couloirs désœuvrés pendant que les soignants, parfois 4 ou 5, sont réunis dans leur bureau. De la même façon, lorsqu'ils sortent sur la terrasse grillagée pour une pause cigarette, ils restent entre eux, à l'écart des patients. Lorsque j'arrive dans le service pour voir mon fils, l'accueil se réduit à « Je vais le chercher, il est dans sa chambre ». Aucune parole, aucun regard, aucun geste qui inviterait à un échange. On a même parfois l'impression de déranger. Mais revenons à l'entretien avec les deux psychiatres. J'évoque la différence entre ce que je constate ici, à l'hôpital, et ce que je sais d'une approche différente de la maladie mentale, la thérapie institutionnelle, dans laquelle les patients ne sont pas livrés à eux-mêmes et où la relation soignant-soigné est d'une autre nature. On me répond sur un ton que je qualifierais de méprisant. C'est dépassé tout ça, ça ne se pratique plus. Lorsque je fais référence à deux cliniques du Loir-et-Cher, la Borde et la Chênaie, le sourire est condescendant. Cela en dit long sur leur autosatisfaction, leur incapacité à se questionner sur leur propre pratique. La sortie de Maëlic plutôt que prévue serait due à son ambivalence par rapport à l'hospitalisation. La proposition du psychiatre est alors de mettre en place après la sortie une sorte de thérapie de couple, proposition qui relève à mes yeux d'une erreur de diagnostic et qui n'est pas totalement étrangère à son passage à l'acte suicidaire.
Merci Anne-Pauline pour ta lecture. Merci beaucoup à Anaïs et Paul d'avoir partagé ce récit douloureux. On pourrait croire que le suicide de Maëlic Hiver est un cas isolé. Non. Désolé, chers auditeurs, mais beaucoup d'entre nous, beaucoup de familles, connaissent au moins un patient qui n'a su trouver comme unique refuge que le suicide juste après une fin d'hospitalisation. On reconnaît dans le parcours de Maëlic le mépris de certains professionnels, leur culture dominante et maltraitante, ainsi que le manque de moyens des institutions. Et puis une absence trop banale de remise en question. Merci encore. Je vous propose maintenant, chers auditeurs, d'écouter Parents de Youngblood, un jeune artiste britannique résolument queer. Dans Parents, il critique le rejet de ses parents et de la société à cause de son orientation sexuelle. J'y vois un timide parallèle avec nous, fou ou folle, que beaucoup ont trop tendance à mépriser, à exclure. Merci à lui pour l'énergie et la force qu'il transmet. I was born in a messed up century. My favorite flavored sweets are raspberry and feta meats. I bought a car Beretta age 16. I brush my teeth with bleach 'cause I ain't got time for cavities. My daddy put a gun to my head. Said if you kiss a boy, I'm gonna shoot you dead. So I tied him up with gaffer tape and locked him in a shed. Then I went out to the garden and I fucked my best friend 'cause my hopes are getting low because these people are so old. Mom and dad laugh. See a thousand bolts go through the sun. They wish they never had. They told me casual affection leads to sexual infection. But it's hard to get an erection when you're so used to rejection. Yeah, the teacher fucked the preacher. But then he had to leave. I had to wash away the sins of a male cheerleader. Hi, nice to meet ya. Got nothing to believe in. So let me know when my breathing stops. 'Cause my hopes are getting low. Because these people are so old. The way they Vous êtes bien dans Fréquence follement curieuse en compagnie de Anne, membre de Luna Femme, de Yann, Anne-Pauline et moi, Beryl. Anne-Pauline, d'ailleurs, on parlait famille et je crois que tu voulais nous parler de psychogénéalogie.
Dès que nous avons évoqué l'idée de partir sur le thème de la famille pour cet épisode, j'ai pensé à la psychogénéalogie, une notion que j'ai croisée dans mes lectures ou discussion, mais qui restait relativement abstraite. Et c'est ce qui est délicieux, car ce format et cet espace ici à la radio est toujours l'occasion d'aborder des notions nouvelles et d'essayer de les comprendre. Ce que j'ai appris, c'est que la notion est complexe et passionnante à la fois. Il s'agit d'une discipline, d'une science humaine, en prolongement de la psychanalyse, qui vise à rechercher les empreintes psychologiques que nos ancêtres ont pu laisser en nous, le plus souvent à notre insu, et qui peuvent néanmoins éclairer nos comportements actuels. De manière plus large, on parle également du transgénérationnel, à la croisée de la psychologie, psychanalyse, généalogie, sociologie, histoire, et parfois aussi médecine traditionnelle. Tout de suite, on croise le nom d'Anne Ancelin Schützenberger, psychothérapeute qui a popularisé cette spécialité dans les années 70. Par contre, l'avènement de ces concepts en psychanalyse remonte à la notion, par exemple, d'inconscient collectif de Carl Gustav Jung, ou encore de loyauté familiale invisible avec Ivan Bozomeni-Nagy. C'est une approche transgénérationnelle qui puise également ses sources chez les psychanalystes Nicolas Abraham et Marie Torok dans l'ouvrage « L'écorce et le noyau », chez Françoise Dolto aussi, ou encore Didier Dumas. Le point de départ est fait de multiples exemples de coïncidences troublantes dans les observations de tous ces thérapeutes qui relatent des récurrences, des correspondances, des résonances du présent avec le passé. On ne s'attardera pas aujourd'hui sur les concepts psychanalytiques qui sont complexes et puis très largement développés dans beaucoup d'ouvrages, comme « Aïe, mes aïeux » d'Anne Ancelin-Schützenberger, qui propose un tour complet et des tas de cas cliniques. Moi, je vous recommanderais plutôt, pour aller plus loin si le sujet vous interpelle, la série « La psychogénéalogie ou l'analyse transgénérationnelle » en 5 épisodes sur France Culture, enregistrée en 2005 et toujours absolument à propos en 2023. On y écoute des thérapeutes, des écrivains, une énergéticienne, des témoignages, des extraits de romans. Ce qui me frappe, c'est qu'une fois de plus, une notion contemporaine théorise sur ce que de nombreuses civilisations, dont la nôtre, ont pratiqué depuis le temps des temps et pratiquent encore: notre rapport à nos origines, à nos ancêtres, à notre filiation.
Tu peux nous donner un exemple ?
Oui, par exemple, au début de l'épisode 1, qui s'intitule « La voix des ancêtres », Anne Ancelin-Schützenberger dit, en parlant d'une photographie, « Il s'agit du Red Rock, le rocher rouge au milieu de l'Australie où je suis allée. » Et les gens qui vivent là, ils refont tous les matins leur histoire, et leur histoire, c'est que ils descendent tous de l'esprit du grand rocher. Et donc, ils refont l'histoire de l'époque glaciaire à nos jours. En une demi-heure tous les matins, ils se rattachent au cosmos et c'est comme ça qu'ils vivent. Voilà, c'est tout simple, mais ce qui est frappant une fois de plus, c'est que nous, ici en Occident, il y a un moment où on a dit « faisons table rase du passé, apprenons l'histoire avec un grand H à l'école », tout ça. Mais la transmission de la mémoire familiale, ça c'est en option. Et l'avènement de la psychogénéalogie, à la fin du XXe siècle, ne semble pas le fait du hasard, c'est plutôt une tentative de notre société occidentale de recouvrer sa mémoire, car c'est une société qui perd ses valeurs traditionnelles, qui est bouleversée par la désintégration de la cellule familiale. Alors peut-être y a-t-il encore plus besoin de se reconnecter à ses racines. Selon Didier Dumas, psychanalyste ayant beaucoup étudié les écritures, les savoirs anciens et le chamanisme, je cite, « Pour les anciens, l'esprit était une réalité palpable. Nous avons toutes sortes d'approches contemporaines et scientifiques, mais qui ne font probablement que retrouver les intuitions de la cure chamanique, selon lesquelles il n'y a pas de rupture dans la création, traversée par un seul souffle. Nous sommes donc tous porteurs du souffle cosmique et du souffle de notre lignée depuis ses origines. » Partir à la recherche de la voix des ancêtres qui parle à travers nous, c'est retrouver notre énergie ancestrale et c'est se mettre en résonance avec la note musicale de notre appartenance familiale. D'autre part, la vraie structure d'un individu est transgénérationnelle. Elle n'est pas individuelle, nous ne sommes pas des êtres individuels. Beaucoup de réponses à des troubles psychiques sont désignés comme individuels, mais représentent plutôt des réponses à une problématique qui est tout de même bien souvent collective. La médecine occidentale du XXe siècle, en séparant le corps de l'esprit, a perdu une schématisation qui pourtant est toujours bien présente dans les médecines chinoises ou ayurvédiques, selon Tiki Nguyen, énergéticienne. Je cite, « Tout ce qui est physique peut être en corrélation avec quelque chose de plus subtil, plus vivant, comme les émotions, comme une pensée, c'est toujours lié. » Le transgénérationnel, c'est un travail sur le corps énergétique. Ce que j'ai voulu noter aussi à partir de ces émissions, c'est que la médecine occidentale du XXe siècle, en réduisant la mort à la conception matérielle du cadavre, a évacué la place des ancêtres. Cela a été fait de manière si puissante qu'émerge aujourd'hui en réaction de multiples tentatives pour reconnaître l'influence qu'exerce sur nos destinées, nos ascendants. Place est rendue à la transmission de la mémoire. Dans l'ouverture du livre « Aïe mes aïeux » d'Anne Ancelin-Schützenberger, on trouve la citation de saint Augustin. Donc, entre parenthèses, saint Augustin, c'est quelqu'un qui est l'un des quatre pères de l'Église latine et qui est né en 360, en l'an 353. La citation est celle-ci. « Les morts sont des invisibles, ils ne sont pas des absents. » Cette phrase, elle la découvrira dans la salle d'attente du cabinet de Françoise Dolto à l'époque. Et c'est intéressant de constater comme c'est juste et que cela nous relie à nos aïeux, à nos ancêtres, à notre histoire, mais aussi à nos amis, à nos familles choisies et à notre histoire collective cette fois.
Merci beaucoup Anne-Pauline pour toutes ces ressources passionnantes. J'irai faire un tour sur les podcasts La psychogénéalogie ou l'analyse transgénérationnelle sur le site de France Culture et pourquoi pas lire Aïe mes aïeux d'Anne Ancelin Schutzenberger, si tu veux bien me le prêter. Pour ce qui est de la famille, j'ai aussi envie de vous parler violence. Car à mon sens, et c'est personnel, on ne peut pas évoquer l'un sans l'autre. Une famille, c'est un fantasme de stabilité, d'amour inconditionnel, de sauvetage pluriel. Je suis assez cynique parce que la mienne m'a fracassé la gueule comme celle de beaucoup. Vous aussi, vous connaissez sûrement des gens qui flippent à l'idée d'aller au mariage de la sœur, à un dîner le dimanche, à l'anniversaire de grand-papa. Je crois que c'est le cas d'une majorité, bien cachée derrière la bienséance. Pour beaucoup d'entre nous, adultes fracassés, elle a été le cocon de notre souffrance et nous a profondément meurtris. Au lieu de nous protéger, de nous enseigner qu'on peut faire confiance, qu'on est capable et qu'on mérite d'être aimé. Vous imaginez être régi par vos bourreaux, c'est-à-dire ceux à qui on demandait déjà des comptes à votre sujet enfant. Parfois, malgré des signaux alarmants sur votre environnement et votre santé, des cernes, des notes qui dégringolent, des fringues trop petites ou usées, des cheveux gras, une odeur nauséabonde, une mise à l'écart, de l'automutilation, des hématomes, etc. Et déjà les profs, les animateurs, les médecins, et parfois les flics les croyaient eux, car vous étiez qu'un gamin ou une pseudo-délinquante, et que les violences infantiles sont très taboues. Que les enfants ont été réputés pour inventer, avoir une imagination débordante, ou que le terme « crise d'ado » est rentré dans les mœurs, pour ne vouloir rien dire, à part que c'est l'adolescent souffrant le responsable. Leur parole valait peut-être déjà plus que la vôtre. Et maintenant que vous êtes adulte, vous restez perçu comme un gosse, car vous avez une étiquette de fou, gravée sur la tronche. C'est souvent implicite. On les écoutera, eux, et leurs plaintes, eux-mêmes se référant au sacro-saint médecin. On baissera les yeux quand vous parlerez de vos souffrances. Mais parfois, c'est explicite, hein. L'hospitalisation sous contrainte, leur entourage comprenant qu'il vous est mis à la porte, car vous étiez chiant, passif et branliez rien, la mise sous tutelle ou curatelle. Fondamentalement, je ne suis pas contre le fait de se référer à un tiers. Je me questionne juste sur la pertinence du choix de ce dernier. Parce que la famille peut écraser la juste place des proches, beaucoup plus proches, que peuvent être les amis, les alliés, certains pros, les concernés. L'éloquence, le charisme et puis la croyance qu'eux sont nécessaires peuvent tromper. En fait, parfois ce sont vos potes ou les autres malades à qui vous vous confiez, avec qui vous vous sentez libre, avec qui vous laissez tomber le masque. Ce sont eux qui vous connaissent le mieux. Après, c'est un problème culturel et étatique. Partout, même adultes, on nous demande des justificatifs sur nos parents. Pour avoir les bourses quand on est étudiant, parfois pour trouver un logement, pour toucher des aides, quand bien même on leur cause plus. Justification qui pousse certains d'entre nous près de leurs agresseurs, car elles sont dépendantes d'eux financièrement. Pour moi, solutionner ces problèmes n'est pas si sorcier. Rendre l'âge plus accessible et raccourcir le délai d'attente qui est d'1 an actuellement à Rennes. Et pourquoi pas un revenu universel pour tout le monde. Permettre aux structures de soins, grâce à plus de personnel, de meilleures formations et un brin de thunes de nous recevoir, accueillir, accompagner avec décence et sérieux. Bon, après, même si la famille essaye, pour de vrai, de faire de son mieux et n'est pas si violente, ou même qu'elle est aidante, je ne supporte pas qu'elle puisse naturellement autant influencer des prises de décision. Exercer un contrôle me paraît au mieux infantilisant, au pire contre-productif. Comment voulez-vous devenir autonome, être entendu, Accédez à vos droits si leur parole, merci le biais validiste, est plus valeuse que la vôtre.
Beryl, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est le validisme.
Vous savez, le validisme, c'est quand vous êtes dans une pièce, avec un zinzin et un pas zinzin. Et vous écoutez plus, même sans faire exprès, le pas zinzin. Ou enfin, la personne valide, quoi, ou la personne qui n'a pas de handicap, même s'il dit que la Terre est plate. En gros, décrédibiliser les personnes handicapées, c'est une lourde partie du validisme. Je disais donc, comment voulez-vous devenir autonome, être entendu, accéder à vos droits si leur parole valide est plus valeureuse que la vôtre ? Pauvres petits malades, décrits comme un boulet, un poids, la cause de tous leurs maux. Eux perçus comme des saints, des gens à plaindre, valeureux, gagnant une réincarnation de qualité. Quand bien même l'éclosion d'une maladie psy, bien qu'elle chamboule un équilibre parfois déjà précaire, expose souvent des failles, déjà ancrées dans la structure familiale qu'il a vu évoluer. Ce que j'essaye de dire, chère famille, c'est de nous laisser exister, respirer, être présent si vous le souhaitez, si vous le pouvez, mais ne pas voir cet acte comme de la générosité ou une place au paradis, pas avec les yeux dominants de la pitié, plutôt comme le choix éclairé d'aimer quelqu'un. Si vous voulez échanger avec le corps médical, le grand public qui probablement, merci encore une fois le biais validiste, sera plus attentif à vos revendications et conseils qu'aux nôtres. Laissez-nous une place méritée pour être entendus. Ce que je vous demande, c'est de nous laisser tester, échouer, réussir, choisir, grandir, se rétablir. Faites à nos côtés plutôt qu'à notre place. Et toi, cher zinzin de la psychiatrie, ou du moins jeune adulte en questionnement. Oui, ça peut être pertinent de questionner la dynamique de ta famille, y compris en thérapie, et pourquoi pas la tenter en groupe. Ça peut aussi l'être de leur donner ta vérité, tes impressions, tes besoins. Mais si tu es en souffrance dans cette relation, si elle te pèse, tu peux essayer de la remodeler, mais sache que tu n'as pas d'injonction à rester en contact avec eux. Je ne remercierai jamais assez mon psychiatre d'avoir respecté la déontologie en envoyant bouler ma mère quand elle voulait connaître le contenu des séances, lui parler, et qu'il m'ait cru surtout, avant tout. J'ai essayé de parler avec elle, reparler, et de la remettre sur terre, sans succès. Et depuis que je ne lui parle plus, j'ai pu entamer mon vrai rétablissement. Bon, je crois que je me suis assez penchée. Je crois qu'il est temps de souffler avec Daddy Issues de The Neighborhood, un groupe américain orienté rock alternatif qui aborde des thèmes autour de l'anxiété, des troubles. Quand on parle de Daddy Issues, c'est souvent pour dessiner les blessures des petites filles avec leur papa, absent ou violent, qui, une fois devenues femmes, vont vers des hommes qui ont le même profil, voire même pire. On est toujours dans Fréquence follement curieuse, autour du thème de la famille par le prisme de la santé mentale. Yann, tu voulais nous parler de l'évolution de cette notion et de ta propre expérience, je crois.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en ces temps d'individualisme exacerbé, la famille peut, ou pas, être un des derniers refuges pour les solidarités. Les relations entre les membres de la famille évoluent. En effet, chaque pays, chaque époque, chaque société instaure une définition de la famille. Pour le sociologue Émile Durkheim, la famille est une institution sociale qu'il explique ainsi. Pour qu'il y ait famille, il n'est pas nécessaire qu'il y ait cohabitation et il n'est pas suffisant qu'il y ait consanguinité. Mais il faut qu'il y ait des droits et des devoirs sanctionnés par la société et qui unissent les membres dont la famille est composée. En Occident et ailleurs, le modèle patriarcal, ce système de domination masculine, semble se fissurer face au militantisme féministe. Qu'en est-il pour les relations familiales face à l'épreuve des troubles psychiques ? Que nous dit la famille de la pathologie psychique ? Il est évident que les maladies psychiques impactent la famille et peuvent ébranler ses équilibres. La première décompensation psychique, dépression, accès maniaque, bouffée délirante, etc., engendre d'abord une sidération et une perplexité énormes pour tous les membres de la famille. Si elle n'est pas subjectivée, verbalisée, représentée psychiquement, elle peut conduire au déni. Malheureusement, la répétition des accès impose la sentence d'une réelle maladie psychique qui doit être acceptée autant pour la personne que par sa famille. On pourrait même dire qu'il faut faire le deuil de l'enfant normal, entre guillemets, car le trouble peut devenir une maladie inhérente à la personne humaine. Toutes les familles sont traversées par des conflits. L'autonomie, notamment financière, de l'enfant permet de les juguler. En France, nous avons la chance que quand un trouble devient un handicap, la personne peut avoir droit à l'allocation adulte handicapé. Ce n'est pas juste de l'argent, cela a une réelle portée thérapeutique, puisque cela permet à la personne de se construire au-delà de la tutelle financière des parents. Par exemple, souvent, une personne développe une forte dépendance au tabac. Vu le prix des cigarettes, si c'est les parents qui payent, vous imaginez bien toutes les disputes véhémentes que cela peut engendrer.
Je vois que ça se sent le vécu,
voilà,
Yann.
Voilà.
Au moins maintenant, t'as tes clopes.
L'angoisse existentielle primaire est basée sur la non-satisfaction des besoins fondamentaux. Boire, manger, avoir un toit sur la tête, se vêtir, accéder à un minimum de divertissement, etc. La société, l'État, la collectivité ne peut pas guérir la personne d'une maladie psychique, mais elle peut, tout du moins, allouer un minimum d'argent pour satisfaire ses nécessités. Et cela fait plusieurs angoisses de moins, c'est toujours ça de gagné. Au niveau des soins, les choses ont aussi bougé. Alors qu'il n'y a pas encore si longtemps, les psychiatres refusaient catégoriquement de recevoir la famille du patient, aujourd'hui les parents, la fratrie, ont de plus en plus de place dans le processus thérapeutique. Cela dit, il reste encore beaucoup de progrès à faire sur la communication et sur ce qu'on pourrait appeler l'alliance thérapeutique. Les parents ont un rôle, entre guillemets, presque naturel de protection de leur enfant. Mais il est vrai que cette relation peut devenir quelque peu étouffante. Il ne s'agit pas ici de culpabiliser la famille. Non, Il s'agit juste de dire que notre première socialisation, notre premier rapport au monde est donné par notre famille. Et donc, si une personne développe des troubles psychiques, on ne peut pas se passer d'une analyse familiale. En outre, dans nos sociétés modernes fondées sur la construction individuelle, les parents doivent laisser leur enfant faire leur propre expérience. Il ne faut pas le mettre sous une cloche en l'empêchant de tracer sa propre voie. Cela dit, les expériences familiales diffèrent beaucoup selon les personnes. Pour ma part, même si les relations avec ma famille ont été tendues et difficiles, j'avoue que son soutien m'a permis d'avoir plus de chances d'aller mieux. Souvent, quand j'étais au fond du gouffre et que mes amis se détournaient de moi, ma famille fut le dernier soutien. Peut-être que tout l'enjeu du rapport à la famille, c'est de trouver la bonne distance. Ni trop près, car cela devient infantilisant, ni trop loin, car on a besoin des solidarités. Bien sûr, quand la personne va mieux, qu'elle se rétablit, les relations familiales s'améliorent. Il faut savoir que beaucoup de personnes en troubles psychiques, voulant fonder une famille, vont devoir y renoncer. Au-delà du choix personnel, du célibat contraint, c'est tout un décalage, un repli sur soi que cela engendre. Par exemple, pour moi, j'aurais bien aimé avoir des enfants, mais vu ma fatigue, je m'en sens incapable. La famille, qu'elle soit une valeur ou pas, influe énormément sur nos visions du monde et sur nos dispositions à appréhender le réel. Peut-être que s'en dégager, sans la renier, permet de trouver les pièces manquantes à notre épanouissement. En tout cas, au niveau thérapeutique, la prise en charge de la personne ne doit pas se faire de façon hors sol, comme si la famille n'existait pas. En effet, un enchevêtrement de conflits, de traumas, doivent être démêlés.
Merci à toi Yann, je suis bien d'accord, il faut aller démêler tout ça quand on le peut. Merci aussi à Anne-Pauline, Anaïs, Paul et Anne. D'ailleurs Anne, tu peux nous redonner les coordonnées de l'UNAFAM ?
Oui, bien sûr. Alors à Rennes, nous avons un local qui est situé 4 avenue d'Italie, c'est dans le quartier du Blône, à la station de métro Italie. Bon, je donne cette adresse-là, mais en général, il n'y a pas d'intérêt à y venir sans rendez-vous. La meilleure façon de nous joindre, c'est de nous téléphoner au 02 99 53 88 93. Vous serez rappelé et on proposera un rendez-vous. En général, c'est un rendez-vous en accueil individuel.
Merci Anne, d'ailleurs comme elle l'a si bien dit, ne restez pas seule et n'hésitez pas à aller rencontrer les bénévoles de l'UNAFAM. D'ailleurs j'allais oublier, désormais vous pouvez nous joindre à l'adresse mail fréquence sans accent follementcurieuse@prot.me. Vos impressions, vos retours, vos propositions sont les bienvenues. Pour rappel, vous pouvez retrouver les émissions précédentes sur le site de Canal B. Et celle-ci d'ailleurs si vous voulez la réécouter. On vous dit à bientôt pour une nouvelle carte blanche.
À bientôt.
À bientôt, merci. Au revoir.